A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Ça va causer étrangement dans le poste de radio pendant presque une heure, avec une tête et une grande gueule d'altermondialiste, moraliste, sociologue et ancien rapporteur spécial auprès de l'ONU sur la question du droit à l'alimentation dans le monde. Cet empêcheur de capitaliser en rond met aujourd'hui l'accent sur l'ordre cannibale du monde. Le capitalisme expliqué à ma petite fille est le dernier caillou dans la chaussure de ceux qui marchent vers toujours plus d'avoir. Un accent suisse dans le fauteuil d'en sol majeur qui s'insurge contre le pillage mondial. Qui n'a pas lu « La Suisse lave plus blanc » et qui aura traîné son credo autant devant les tribunaux où il comparaît pour de multiples procès rapport à ses pamphlets que dans les savanes du Congo ou du Sertão brésilien. Rediffusion d'un en sol majeur enregistré en 2018 au moment où Robert Mugabe, ici évoqué, était encore de ce monde. Et comme quoi, il y a d'un côté les petits Suisses et de l'autre Jean Ziegler. Mais bonjour Jean Ziegler. Vous me donnez
bonjour,
votre carte.
Je vous remercie de votre invitation.
Tout de bon.
Merci beaucoup.
Alors je sais que vous êtes très pressé de l'évoquer en sol majeur, ce capitalisme expliqué à ma petite fille, mais j'aimerais d'abord qu'on fasse connaissance avec le bourgeois suisse et blanc que vous êtes. C'est comme ça que
totalement.
Vous vous définissez.
C'est le hasard de la naissance, c'est vrai, je suis né dans un milieu bourgeois en Suisse alémanique, dans les Préalpes. Mon père était président du tribunal, colonel dans l'armée de milice helvétique. Ma mère, complètement le contraire, une fille de paysan pleine de vitalité, mais pas beaucoup de culture, tandis que mon père était un homme très cultivé.
On va le raconter, mais...
Mais origine bourgeoise,
attendez,
hélas.
Attendez.
Je ne peux pas le nier.
Oui. Ça s'entend, on le sait, c'est de notoriété. Est-ce que vous, qui êtes un peu autiste de vous-même, vous allez accepter de vous raconter ?
Totalement, mais je pense que c'est dans le combat que je mène, ou que mènent beaucoup d'autres, pour abolir cet ordre cannibale du monde où tous les 5 secondes d'un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim sur une planète qui croule sous la richesse.
Mais vous ne répondez pas du tout à ma question.
Oui, mais c'est tellement scandaleux, le massacre de la faim.
Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est cet homme qui, justement, combat cet ordre mondial cannibale. On y va.
T comme tribu.
Je crois savoir que vous aimez bien ce mot de tribu, Jean Ziegler. Quelle a été votre tribu première dans ces montagnes suisses où vous avez grandi, une montagne appelée Blumenlisalp ?
Oui, et que j'ai quittée. J'ai rompu à l'âge de 15 ans, je suis parti à Paris. C'était le monde de la bourgeoisie calviniste. Vous savez que Calvin, c'était le grand réformateur, 1536, la première république bourgeoise et protestante du monde à Genève. Et le calvinisme, c'est cette branche du protestantisme qui a comme devise « ora et labora ». On ne peut pas changer le monde, il y a la prédestination. Mais alors, quand j'ai découvert évidemment les enfants de familles pauvres qui travaillaient pour des paysans riches comme des esclaves dans la région où j'ai grandi, aux Préalpes, dans les Préalpes bernoises, quand j'ai dit à mon père « comment est-ce possible que moi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un vélo brillant, je vais au collège, etc. » Et d'autres enfants que je croise, en hiver, ils avaient froid, des sabots, mal vêtus, sous-alimentés, etc. Ils me disaient « Tu ne peux rien faire, on ne peut pas changer le monde, Dieu l'a voulu, fais ce que tu peux, fais des études, etc. » Et je voyais tout à coup ma vie comme une unique reproduction de l'existence. Et si vous dites à un gosse de 15-16 ans « Tu ne peux pas changer le monde, la pauvreté est là pour toujours, c'est Dieu qui l'a voulu, etc. » comme tes privilèges, eh bien, il explose. On ne peut pas accepter une vie qui se réduit à la seule perspective de la reproduction. Et je suis parti.
Thank you. Alors, dans le bonheur d'être suisse, Jean Ziegler, vous racontez bien la tribu religieuse à laquelle vous appartenez. Je vous imagine sur les bancs de votre église, chantant ce type de chant luthérien.
M'ennuyant à mort, c'est des chants de combat, les chants luthériens. Le calvinisme, c'est redoutable, vous savez, comme mouvement, comme idéologie. J'ai dit, ça vient du XVIe siècle. Les calvinistes ont conquis les États-Unis, dominant parmi les différentes communautés chrétiennes. Les Blancs d'Afrique du Sud, enfin, ces horribles personnages qui ont fait le régime de l'apartheid, mus par la foi en la prédestination de la supériorité des Blancs. La Hollande, l'Écosse, etc., ont été conquis par les calvinistes. Alors, tout ce qui est supériorité blanche, par exemple, j'en ai horreur totale. D'abord, c'est une absurdité au niveau de la raison. Et surtout, c'est une supériorité affirmée qui se concrétise dans des comportements criminels, génocidaires. Alors moi, avec ce monde calviniste, je ne le supportais pas.
Donc, révolte première contre cet ordre religieux dans lequel vous grandissez corseté, mais pas seulement.
Oui.
Il y a aussi cette figure paternelle que vous évoquiez à l'instant, Jean Ziegler. Vous en parlez bien dans cette autobiographie « Le bonheur d'être suisse ». Vous l'évoquez avec tendresse, mais avec une exigence infinie. Vous découvrez l'un des premiers mensonges commis par votre père et qui a trait à ce que les nazis ont organisé pendant la Seconde Guerre mondiale.
Vous avez raison, ça c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que la Suisse, qui était le receleur de Hitler, qui avait son or volé dans 11 pays occupés, la Suisse était soi-disant neutre. Il y avait une armée allemande en Italie du Nord, une grande armée allemande, qu'il fallait approvisionner en munitions, en matériel militaire, et ça passait par l'école suisse. Et mon père, conformément à la doctrine officielle, disait « on est totalement neutre, on est totalement neutre. Ni Hitler, ni Churchill, nous sommes neutres entre les deux. » Et les trains venant d'Allemagne, allant en Italie du Nord, étaient censés être des trains d'alimentation, d'essence, etc., etc. Et rien d'autre, couverts sous des bâches. L'orage a fait dérailler ce train allemand, la Reichsbahn, qui passait par Thun. Et tout à coup, le contenu de ces wagons s'est éparpillé. Et c'était des munitions, des canons, des blindés, des mitraillettes, etc.
Donc, la preuve de la neutralité suisse.
C'était le démasquage du mensonge de la neutralité suisse. Et là, j'ai rencontré pour la première fois le mensonge reproduit par mon père qui a contribué beaucoup à ma rupture.
Alors, il y a une sorte d'épiphanie qui va se faire
mais
en vous.
Si je peux ajouter, quelque chose.
Ai-je le choix?
Excusez-moi, parce que je suis un peu lent dans ma réflexion.
Ça va bien.
Ça va, vous voyez. Cette hypocrisie helvétique qui est permanente, l'oligarchie bancaire qui gouverne ce pays, eh bien, vit essentiellement de l'argent du sang, c'est-à-dire des capitaux en fuite de l'Afrique, des régimes corrompus, de l'argent criminel aussi, de l'évasion fiscale française, italienne tout alentour. Et les banquiers suisses disent, mais nous, on respecte la morale internationale, on ne fait que recevoir l'argent qui vient. En fait, ils sollicitent, ils organisent le transport, ils pillent les pays du tiers-monde. Mobutu, Kabila, etc., pour prendre quelques malfaiteurs, eh bien, ils n'auraient pas la possibilité de créer des empires financiers. La fortune de Mobutu dans les banques suisses et d'autres banques occidentales dépassait les 4 milliards de dollars. Pour faire un tel empire, il fallait la complicité, l'aide active, la compétence des banquiers helvétiques.
Donc et là, donc, on est dans une de vos obsessions, Jean Ziegler, on y reviendra tout à l'heure.
Et l'hypocrisie helvétique.
Absolument. Et on vous aime pour ça. Et on vous déteste aussi pour ça. On va y revenir, Jean Ziegler.
J'ai eu des procès qui m'ont étalé, ça c'est vrai.
Alors, pour un sol majeur, j'aimerais juste qu'on revienne sur ce moment un peu d'épiphanie dans votre vie de jeune adolescent à 15 ans. Vous faites un cauchemar qu'on n'a pas vraiment le temps de raconter, mais où vous ressentez une sorte d'oppression, une projection de ce que va être votre vie dans cette vie suisse qui est si, comment on va dire ça, quadrillée.
Marquée par l'hypocrisie.
Voilà. Vous ressentez comme une impression d'enfermement, comme si vous étiez dans une cellule. Et cette image de cellule, vous allez la retrouver sur le continent, lorsque vous vous retrouverez dans le camp, le fameux, le terrible camp de Boiro, près de Conakry, en Guinée.
Oui, J'ai été invité par Sékou Touré, j'étais déjà un peu connu pour les premiers livres, etc., professeur, tout ça. Et j'ai été invité à Conakry, et je suis retourné après sa chute, où on m'a fait visiter ce camp où Sékou Touré pratiquait la diète noire. C'est-à-dire, la diète noire, ça veut dire laisser mourir des gens enfermés dans des cellules derrière des portes de fer. Et Diallo-Telli, enfin d'autres grands dirigeants de l'indépendance, des nationalistes, des gens, des jeunes Africains magnifiques, des intellectuels, des syndicalistes, etc., ont été assassinés par Sékou Touré dans ce camp, par la diète noire. Et pour moi, évidemment, c'était une découverte assez horrible, parce que j'admirais Sékou Touré qui avait dit non à De Gaulle.
Mais
et finalement, très très mal.
C'est étonnant cette coïncidence presque prophétique d'avoir vu dans ce rêve que vous faites à 15 ans
c'est vrai.
L'image d'une cellule que vous allez retrouver 40 ans après.
Physiquement.
20 ans après.
20 ans, physiquement. J'ai rompu avec ma famille. Et c'est un peu schématiquement, mais parce que j'ai encore mauvaise conscience jusqu'à maintenant, parce que j'ai fait souffrir mes parents, notamment mon père qui était aimant et qui m'aimait, etc., parce que je ne supportais pas la perspective de vie qui m'ouvrait en disant une vie de pure reproduction d'un bourgeois blanc helvétique qui devient avocat, qui a des enfants et qui meurt. C'est intolérable. Je voulais conquérir ma liberté. Et l'image qui me hantait, c'était justement, je faisais des rêves, une cellule de béton enfermée pour la vie. Et mystérieusement, énigmatiquement, j'ai rencontré physiquement cette cellule dans le camp guinéen.
Jean Ziegler, il n'y avait pas que les chants luthériens dans votre oreille de petit Suisse. Il y avait aussi le fameux « Rang des vaches ». C'est un chant traditionnel suisse qui raconte quoi?
C'est le chant des gardiens de bétail qui avaient et qui ont encore jusqu'à maintenant une culture propre. Un des chants qui exprime cette culture s'appelle le rang des vaches. C'est un patois où le berger parle aux vaches.
Le rang des vaches, 13 en sol majeur sur RFI pour un Jean Ziegler au rang des troubles fêtes mondiaux, on peut dire, actuel vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On y reviendra, mais rewind tout de suite sur le jeune Jean Ziegler, alors que vous êtes nommé à Léopoldville dans les années 60 à l'ONUC, l'Organisation des Nations Unies au Congo, un organisme censé maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale. Voilà ce que vous écrivez dans Le Bonheur d'être Suisse.
Sous les fenêtres du Royal, ce qui était l'hôtel où les gens de l'ONU étaient enfermés, sous les fenêtres du Royal, chaque soir, à la tombée du jour, le même spectacle se répétait. Des cortèges d'enfants torturés par la faim, venus des faubourgs de Léopoldville, se dirigeaient vers l'enceinte gardée par les gourkas, donc par les casques bleus. Les enfants noirs ne pouvaient pénétrer dans l'enclave blanche, la mendicité même leur était interdite. Je les ai vus se dresser sur leurs jambes, refusant de mourir, fragiles, se déplaçant de façon grotesque, comme des araignées géantes, debout ou à quatre pattes, appuyés les uns sur les autres, les plus grands portant ou traînant leurs frères plus petits, les enfants squelettiques des faubourgs avançaient vers les barbelés. Derrière la barrière, les gourkas, l'un d'entre eux levait parfois sa mitraillette vers le ciel. Une salve partait, les squelettes continuaient d'avancer. Arrivés à la barrière, la plupart s'effondraient. Ils restaient couchés sur le flanc, les yeux grands ouverts, en une agonie qui, pour certains, durait des heures. D'autres, dans un ultime sursaut, se jetaient contre les barbelés et y restaient accrochés. D'autres encore retombaient sur la piste, bras écartés, et mouraient. Leurs yeux, jusqu'à ma mort, me regarderont. Une musique douce ruisselait comme une pluie fine le long des façades blanches de l'hôtel royal. Sous les lustres, à l'intérieur, un ambassadeur quelconque donnait une réception pour un homme d'affaires quelconque d'une quelconque nation d'Europe. Celui-ci levait son verre de champagne, saluant en thème choisi la mission civilisatrice de l'Occident au Congo.
Pour dire, Jean Ziegler, aux auditeurs du Monde sur RFI, que vous avez donc assisté au lendemain de l'indépendance au chaos congolais, j'imagine que le futur moraliste en a été profondément troublé. À partir de ce moment-là, on peut dire que vous, le Mundele, c'est-à-dire le blanc, vous vous jurez une chose, c'est de ne plus être du côté des bourreaux.
Oui. L'hôtel royal, c'était donc l'enclave entourée de barbelés de casques bleus, les fameux gourkas du Népal, où logeait tout le monde de l'ONU, tous les fonctionnaires de l'ONU et quelques diplomates, etc. Et tous les soirs, au deuxième étage, après le dîner, j'étais à la fenêtre et je voyais le cortège des misérables, des affamés, arriver des quartiers les plus pauvres de Léopoldville à l'époque. Et les cuisiniers indiens qui nous nourrissaient, jeter les restes de nourriture, légumes pourris, légumes, pain, un peu de viande, etc., sur les barbelés. Et les gosses essayaient de les arracher, étant repoussés par les gourkas. Je voyais ça. Et moi, j'étais au deuxième étage et je voyais ce spectacle de la sous-humanité que l'ONU infligeait ou les Blancs infligeaient à ces jeunes Congolais. Je me suis juré à ce moment-là que quoi qu'il arrivera dans ma vie, plus tard, je ne serai plus jamais du côté des bourreaux.
Et en même temps, vous faisiez partie de ce système-là?
Voilà, exactement. Bien que faisant partie de ce système-là. Mais je pense que là, j'ai compris que la seule chose que je pouvais faire comme stratégie de combat, c'est l'intégration subversive.
C'est quoi ça comme concept?
Vous savez, c'est le Che Guevara qui me l'a appris parce que j'étais son chauffeur en 64, de nouveau, il y a très 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 longtemps. Il citait souvent Nicolas Boukharine, l'ami de Lénine, le jeune universitaire bolchevique qui a été fusillé par Staline. Et Boukharine disait « Les révolutionnaires sont des opportunistes qui ont des principes ». Ça veut dire que l'intégration subversive, c'est entrer dans les institutions, tenter d'utiliser la force des institutions pour les réalisations de ses propres buts. Alors, je suis devenu beaucoup plus tard professeur à l'université de Genève et de Paris 1, Sorbonne, professeur de sociologie, ensuite député de Genève au Parlement de la Confédération.
Pour dynamiter tous ces systèmes.
Et en même temps, plus tard maintenant, depuis 10 ans, 18 ans, dans mes différents mandats aux Nations Unies. Et chaque fois, j'ai essayé d'utiliser ces institutions, d'utiliser leurs forces pour faire avancer mes propres buts, enfin qui sont les buts de millions et de millions d'êtres humains.
J'ai comme un grand quelqu'un.
Alors des grands quelqu'un, avant d'en devenir un vous-même, Jean Ziegler, vous en avez rencontré pléthore, si j'ose dire. Autant le sort des petites gens vous importe, autant les grands quelqu'un apparemment vous fascinent. La liste est longue, donc pouf pouf, on a, comme la Sainte Trinité, choisi trois voix. La première, c'est celle de Jean-Paul Sartre.
Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvé aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un.
Ernesto Guevara.
La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia.
Amilcar Cabral.
Cette puissance administrante est devenue un terroriste qui bombarde les populations civiles de notre pays avec des bombes au napalm, au phosphore blanc et d'autres bombes, n'est-ce pas, qui fait des raids ou des attaques avec des hélicoptères pour tuer des enfants, des femmes, des vieillards dans les régions libérées, qui brûlent nos cultures, nos récoltes, surtout le riz, pour nous réduire à la famine, mais qui doit se reconnaître impuissant de arrêter la marche de notre lutte libératrice.
Alors chronologiquement, arrêtons-nous sur la voie en sol majeur de Jean-Paul Sartre, celui qui appartient au peuple des intellectuels ou qui guide le peuple des intellectuels. Vous le rencontrez très jeune, Jean Ziegler, et votre esprit brillant ne lui échappe pas. Vous allez même écrire ensemble quelques articles. Quelle relation vous entretenez avec le couple Sartre-Beauvoir ?
Je dois pratiquement tout, beaucoup en tout cas, à Jean-Paul Sartre. Vous savez, quand je me suis enfui à Paris, etc., dans cette vie chaotique que je menais, j'ai eu la chance d'être recueilli par les jeunesses communistes françaises, le groupe Clarté. Et le groupe Clarté organisait les porteurs de valises. Vous savez, durant la guerre d'Algérie, c'était une organisation clandestine qui transportait l'argent, etc., dans la diaspora française, puisqu'il y avait 2 millions d'ouvriers algériens, maghrébins, en France à l'époque, qui finançaient pratiquement la révolution de l'autre côté de la Méditerranée. Et le dirigeant de ces réseaux, dont je faisais partie en tant que jeune communiste, très modestement, j'avais rien à dire, mais enfin, je transportais des fonds, etc., était Francis Chanson, qui était le secrétaire de Sartre. Et donc Sartre était un peu le patron de cette organisation des porteurs de valises. Comme ça, je l'ai bien connu. Ensuite, le Parti communiste a dissous son organisation. Le Parti communiste a voté, du temps de Guy Mollet, les crédits militaires, donc l'appel au contingent, ce qui était détestable pour nous. Et j'ai dû quitter Paris et je suis donc allé au Congo, recruté par les Nations Unies. La première fois que je suis revenu en Europe, Sartre m'a invité chez lui, de nouveau à la rue Bonaparte, pour que je lui raconte ce que j'ai vu au Congo. Alors Sartre était évidemment un intellectuel ethnocentrique européen typique. Il était une fois à Cuba et une fois en Chine, invité par Mao, mais il ne connaissait pas évidemment ni l'Afrique, ni plus vastement le tiers-monde. Avec une modestie incroyable, il m'a dit « Racontez-moi le Katanga, qui sont les mercenaires ?» Et à la fin de l'après-midi, tout à coup, il se levait et il m'a dit « Vous devez écrire ça, vous devez écrire ça. » Et j'ai écrit, vous imaginez pas ce que c'était à l'époque, la revue des temps modernes.
Ah bah si, un petit peu quand même.
C'était la parole, non vous êtes beaucoup trop jeune, c'était la parole de Dieu sur terre,
hein,
à l'époque, la parole de Dieu sur terre. Et j'ai écrit un essai qui s'appelle « Les mercenaires blancs du Katanga ».
Donc c'est votre parrain intellectuel.
Voilà, et Sartre m'a ouvert les portes dès mon premier livre à la grande édition. Vous savez que Sartre a rencontré pour la première fois Frantz Fanon, psychiatre noir.
Les damnés de la terre.
Dont il a fait la préface, a vu Frantz Fanon combattant pour la libération de l'Algérie à Rome en août 61. Et le lendemain, Sartre écrit à Simone de Beauvoir : Nous sommes les semeurs de vent, la tempête c'est lui. Combattre l'ennemi, connaître l'ennemi, c'est les intellectuels par leur analyse, par leur publication. Mais l'insurrection, le changement de la réalité, la révolution, la fin de l'ordre cannibale, ben c'est les peuples qui le feront.
Mais
c'est
alors vous, qui le feront. Justement dans votre costume blanc d'occidental, oui, qui noue des relations avec tous ces indépendantistes, hein, Vous croisez donc la route de Che Guevara, d'Amilcar Cabral et de bien d'autres, de Mehdi Ben Barka, avec qui vous nouez une grande amitié. Oui. Mais vous vouliez quoi?
Est-ce que vous vouliez, répondez à ces questions.
Vous vouliez être un intellectuel comme Sartre pouvait l'être son coin, ou bien vous souhaitiez plutôt rejoindre le peuple de la tempête, pour reprendre l'expression de Sartre, en parlant d'un Che Guevara?
Évidemment, avec le Che, le dernier soir où j'étais avec le Che, j'ai dit, commandant, je vais aller avec vous. Là, il m'a pris à la fenêtre de l'hôtel qui était un peu au-dessus de Genève. Il y avait la baie en bas. C'était la nuit avec les réclames lumineuses des bijoutiers, des banques, des assurances, etc. Il me dit, tu vois cette ville-là? J'ai dit, oui, commandant. C'est le cerveau du monstre. C'est là que tu es né. C'est là où tu dois te battre. Et il m'a tourné le dos. Il est parti. Et moi, il avait encore la vareuse vert olive avec le béret noir et l'étoile dorée du commandant. Froidement, il s'est tourné, il m'a tourné le dos, il est parti. Donc, moi, j'étais détruit sur place, je pensais.
Oui, détruit, mais en même temps, il vous donnait...
Pour un petit bourgeois, ce qui était vrai d'ailleurs.
Ce qui était vrai, mais il vous donnait finalement la ligne de conduite à suivre, c'est-à-dire devenir un révolutionnaire au sein des systèmes occidentaux, ou en tout cas, un empêcheur de penser en rond.
Vous avez tout à fait raison, je dois deux choses en tout cas à Che Guevara. Du fait qu'il m'a humilié en disant « on n'a pas besoin de toi », évidemment, ça me blessait beaucoup, mais il m'a sauvé la vie. Parce que j'ai aucune formation militaire, j'étais objecteur de conscience, je déteste tout ce qui est armée, uniforme, etc. Jusqu'à ce jour, je serai depuis longtemps enterré dans une fosse commune au Honduras, au Venezuela, ou même en Bolivie, si j'avais vécu jusque-là. Et deuxièmement, vous avez tout à fait raison, il m'a donné la stratégie de l'intégration subversive dont j'ai déjà parlé. Donc je dois beaucoup, beaucoup au Che, dont la photo est derrière mon bureau, au Haut Commissariat des Droits de l'Homme. Et chaque fois qu'un diplomate américain ouvre la porte et sur le seuil, il se fiche.
Il
se fiche, mais le Che me regarde et contrôle si je travaille bien.
Alors,
tous les jours.
On aurait presque envie, Jean Ziegler, de vous épouser. Car vous dénoncez donc magnifiquement les travers et les hypocrisies bancaires, morales de la Suisse et plus généralement de l'Occident. Mais on se demande pourquoi tant d'égards, en revanche, vis-à-vis de certains dictateurs africains. Vous avez critiqué Mobutu, ça c'est vrai, mais vous avez été proche d'un Kadhafi, d'un Castro...
Ah non,
conseiller du dictateur éthiopien Mengistu Mariam, qui est arrivé par un coup d'État avec une junte militaire. Et même, vous avez soutenu récemment dans la presse un Robert Mugabe, ce qui est très étonnant. Il a été condamné par Amnesty International pour atteinte aux droits de l'homme. Vous qui défendez les droits de l'homme.
Bon, il faut être très précis. Enfin, j'accepte vos critiques incendiaires. D'abord, il y a un certain moment, j'ai été pendant 8 ans rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation et j'ai dû fréquenter toutes sortes de gens.
Même les infréquentables.
Même les infréquentables. Quand vous dites Fidel Castro, c'est vrai, j'ai été reçu souvent, il y a des discussions tout à fait passionnantes plus tard dans ma vie, mais ce n'est pas un dictateur, Fidel Castro. C'est le chef de la révolution de 1959 qui a changé...
Qui est resté combien de temps au pouvoir?
Longtemps, mais...
Vous
mais
appelez ça la démocratie?
Mais bien sûr, la révolution cubaine a changé la vie de 11 millions de Cubains. Tous les enfants mangent. Moi, j'ai eu un accident de santé il y a 2 ans à Cuba. J'ai eu 2 transfusions sanguines. Ils m'ont guéri parce qu'il y a une médecine extraordinaire.
Le système de santé n'est pas discutable.
Mais c'est quand même l'essentiel dans un monde où tous les 5 secondes d'un enfant meurt de faim.
Vous êtes pour, je pense, l'alternance politique, Jean Ziegler. Vous ne pouvez pas défendre d'un côté.
Non, il ne faut pas dire... Écoutez, j'ai été au Parlement de la Confédération. Eh bien, c'est une démocratie simulative en Suisse. Les élections... sont bien réguliers.
On peut critiquer tous les systèmes de démocratie occidentale, mais
et l'oligarchie bancaire qui fait des crimes infinis dans les pays du tiers-monde.
Est-ce que cette adhésion aux révolutionnaires et aux luttes révolutionnaires qui étaient légitimes au moment où elles sont nées ne vous ont pas rendu aveugle sur la durée?
Je ne veux pas... c'est dangereux si je dis non. On dit ce Ziegler qui est arrogant. J'étais parfois aveugle. Mais reprenons. Je défends totalement la révolution cubaine. Vous m'avez parlé de...
Mugabe.
De Mugabe. Je défends totalement le chef du mouvement de libération, Sanou, Mugabe qui a battu le colonialisme de Jan Smith totalement et qui a signé Alain Castlerhaus en 77, 1977.
Donc votre analyse politique s'arrête, on va dire, à l'acte de naissance révolutionnaire.
Il est devenu après un truand. Après. Mais l'origine est admirable. Maintenant, vous me dites Kadhafi. Kadhafi, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû... Vous comprenez, pour un sociologue, c'est passionnant de voir des chefs d'État. On apprend des choses incroyables. Kadhafi a son origine. Kadhafi était un porteur d'espérance dans la lutte anti-impérialiste pour tous.
C'est que dans votre adhésion...
J'ai accepté trop longtemps les invitations. Il est devenu fou à partir de 88, à partir de l'attentat, où il est resté paralysé pendant 6 mois. Et il est devenu un dictateur sanguinaire. Et je n'aurais pas dû serrer sa main après qu'il ait exécuté les étudiants, qu'il a fait les massacres de Benghazi, etc. Là, c'était un aveuglement que je ne me pardonne pas.
Merci Jean Ziegler pour ce mea culpa. Puisque vous êtes sportif, Jean Ziegler, juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous soutenez une équipe en particulier.
Les Brésiliens.
Pendant cette Coupe du Monde, les Brésiliens, parce que je sais que vous avez été...
J'ai soutenu les Sénégalais qui étaient magnifiques.
Vous étiez un bon joueur, hein, gamin. Vous étiez centre-droit.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais les équipes africaines, quand même, le Nigeria et le Sénégal. Le Sénégal a joué magnifiquement.
Absolument.
Magnifiquement.
C'est l'heure d'être sportif d'une autre manière. On va shooter dans une voie, Jean Ziegler, qui vous met en colère.
Aujourd'hui, un bon manager peut apprendre beaucoup de la politique.
Par exemple, comment gérer une idée
que vous savez et la mettre en pratique. Dans le vieux système entrepreneurial, c'est un petit peu le système militaire. La pyramide, on donnait un autre anneau, c'était exécuté en bas. On attendait que c'était exécuté comme le service militaire. Ça, c'est terminé. Vous ne pouvez pas gérer aujourd'hui une compagnie de cette manière. Aujourd'hui, vous devrez avoir cette capacité de leadership. Ce n'est plus l'autre. C'est convaincre les autres que c'est le bon chemin. Et dans la politique, c'est tout comme ça. La politique, ce n'est autre chose que l'art.
De faire quelque chose.
C'est un art.
Et c'est ça que je pense que les entrepreneurs doivent apprendre
de la politique.
J comme.
J'accuse.
Un ancien patron d'une multinationale bien connue qui parle dans votre En sol majeur, Jean Ziegler, Peter Brabeck Lemat, pour ne pas le nommer. Vous vous êtes confrontés tous les deux lors d'un débat, car vous n'avez pas, pour le dire rapidement, la même conception de l'histoire et de l'économie. Et vous lui devez finalement cette idée de livre que vous avez intitulé « Le capitalisme expliqué à ma petite fille » avec ce sous-titre « En espérant qu'elle en verra la fin ». Vous expliquez à votre petite fille qui s'appelle Zora, chiffre à la pluie, et alors que la planète croule sous les richesses, que la Troisième Guerre mondiale, finalement, est en cours.
Oui. C'est vrai, le livre que vous venez de citer, je l'ai fait sous le coup de la colère, si vous voulez, après un débat à la télévision, où j'ai été invité à me confronter à Peter Brabeck Lemat, qui était le président à l'époque de Nestlé, le plus grand trust alimentaire du monde, 27e entreprise la plus grande, la plus puissante du monde. Et la théorie défendue avec intelligence, d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un d'érudit, d'intelligence par Brabeck, c'était de dire le capitalisme, c'est de loin le mode de production, la forme d'organisation sociale planétaire la plus bienfaisante du monde. Il sort de la misère des millions et des millions de gens. Le capitalisme, c'est la victoire finale du génie humain, etc. etc.
Vous vous inscrivez
alors,
en faux.
Alors moi, je dis le capitalisme tel que je le vis, c'est un système d'exploitation et de domination qui fait concentrer qui est très, très inventif et très dynamique et très créateur de richesses, c'est sans aucun doute, mais qui crée une effroyable inégalité sur la planète. Les 500 plus grandes sociétés multinationales, tous secteurs confondus, de la banque jusqu'à l'industrie, jusqu'au service, ont contrôlé l'année dernière 52,8% du produit mondial brut, donc de toutes les richesses produites sur la planète. Elles échappent à tout contrôle social étatique. Elles ont érigé sur le monde une dictature du capital financier. Elles fonctionnent selon une seule stratégie, la maximalisation du profit. Et évidemment, ce capitalisme, il faut le détruire.
Alors, ce qui est intéressant, c'est
qu'il faut le détruire.
Il faut le détruire aussi en connaissant son histoire. Et c'est une manière que vous avez d'armer la génération de votre petite-fille. Vous expliquez le capitalisme en passant par la case étymologie, hein, ça vient d'un mot latin. Vous expliquez aussi que ce système rappelle celui de l'esclavage, il faut vous lire. Et que les premiers, évidemment, à en avoir payé le prix sur notre planète, ce sont les Africains et les Indiens d'Amérique.
Oui.
C'est toujours le cas, finalement. C'est toujours d'actualité.
J'ai cité ces différents systèmes d'oppression qui ont précédé l'oppression capitaliste, pour bien montrer que le capitalisme, comme on l'entend souvent, c'est une erreur, ne peut pas être réformé. Le capitalisme ne peut pas être réformé, amendé. L'esclavage, 350 ans, 41 millions de personnes déportées d'Afrique. Ben, l'esclavage, il fallait l'abolir, on ne pouvait pas le réformer. Ou bien vous reconnaissez dans l'Africain votre frère, l'homme comme vous, votre égal, ou bien c'est une marchandise. Mais il n'y a pas de troisième voie.
Moi, ce que j'aimerais que vous nous résumiez, c'est la mainmise du capitalisme aujourd'hui, de ces seigneurs de la guerre financière, on va dire, qui sévissent à la fois en Amérique centrale, mais aussi dans un coin qui intéresse nos auditeurs, des RFI, dans l'enfer des mines du Kivu, au Congo. Oui. Vous racontez ça, page 49 du Capitalisme expliqué à ma petite fille, en disant, là, dans les enclaves minières gardées par des miliciens lourdement armés, les sociétés privées exploitent le coltan. Ce minerai, aujourd'hui plus précieux que l'argent et l'or, est utilisé pour les carlingues d'avions, les téléphones portables et mille autres objets essentiels pour les habitants des pays industriels. Seul problème, l'accès à ce minerai est particulièrement difficile. Les puits sont parfois si étroits que seuls peuvent y descendre des enfants au corps frêle. Les veines de coltan sont situées à 10 ou 20 mètres sous terre. La roche est friable, les éboulements nombreux. Les enfants sont alors enterrés vivants, étouffés dans les puits.
J'étais tout récemment à Goma, qui est la capitale du Nord Kivu. Il n'y a pas un hôpital qui fonctionne. La corruption de Kabila est totale. Il n'y a pas d'État congolais présent. Et pas très loin de Goma, il y a des enclaves minières pour le coltan. Les mines du coltan ont ceci de particulier, que la roche est friable et les puits sont très très étroits. Peuvent descendre surtout, presque uniquement, des enfants. Garçons et filles, surtout garçons, de 10, 12, 15 ans. Il n'y a aucune sécurité, les étouffements, les éboulements sont nombreux. Les enfants acceptent ce risque parce que leurs familles meurent de faim dans les villages alentours et la seule façon de faire vivre la famille, c'est de risquer sa vie dans les mines de coltan. Alors qu'est-ce qui se passe? Le coltan est mis à jour, est vendu à la Gécamine, la société minière congolaise officielle, étatique. Le vend à Rio Tinto, à Glencore, au grand trust qui exploite les richesses minières de l'est du Congo, et ce coltan part sans payer de douane, rien du tout, de taxes d'exploitation. Rwanda, Kenya, Mombasa, et là, sur les bateaux, soit vers le Japon, soit vers l'Amérique. Alors, là, j'ai vu à l'œuvre le capitalisme. D'abord, la destruction de l'État congolais, rongé par la corruption à cause de la toute-puissance des sociétés minières, la misère effroyable infligée à ses enfants. Je me dis toujours, ce qui est une évidence, ce qui nous sépare des victimes, c'est le hasard de la naissance, rien d'autre. Ça pourrait être mon enfant ou mon petit-enfant qui est forcé de descendre dans les mines. Et j'ai écrit ce livre et notamment ce chapitre pour réveiller un peu les gens.
Oui, mais une fois que vous les avez réveillés,
une fois que vous les avez réveillés,
Jean Ziegler, avec ce livre qui effectivement est à la fois très riche, pédagogique, mais très sombre, une fois que vous nous avez réveillés, si jamais on l'était, on fait quoi? Parce que vous n'avez pas dans votre pochette surprise un système de remplacement à proposer. Qu'est-ce qu'on met si on détruit le capitalisme?
Bon, je dis deux choses. D'une part, Jean Jaurès dit « La route est bordée de cadavres, elle mène à la justice. » Et Immanuel Kant, le philosophe du XVIIIe siècle allemand, dit « L'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. » Je crois à l'émancipation de l'homme, je crois que l'histoire a un sens, que ma vie aussi a un sens. Et des dizaines et des dizaines de millions d'êtres humains sont réveillés, ne veulent plus de ce monde, de l'injustice, du massacre, de la faim, etc.
Sur le diagnostic, on est d'accord.
L'utopie du tout autre.
On fait quoi ? Qu'est-ce qu'on propose comme remède ?
C'est l'insurrection.
La révolution.
Oui. Comment ça se passera ? Mais c'est le mystère. Il y a une insurrection qui se produit au moment où l'utopie que nous portons en nous, Sartre appelle cela l'incarnation. À quelles conditions une idée, un désir, une utopie devient-elle force matérielle ? On ne sait pas comment ni quand elle se produit. Mais le monde qui naît et qui naîtra avec certitude des décombres de l'oppression capitaliste, ce monde-là, sera un monde marqué par la justice sociale, par le désir du tout autre. C'est la liberté libérée dans l'homme qui le dira.
Jean Ziegler.
Et l'humanité va vers l'humanisation.
Seriez-vous la réincarnation du Che ?
Écoutez, c'est un immense... Non, je suis la colline de Saint-Cloud et le Che, c'est le Mont-Blanc.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Jean Ziegler, le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant qu'elle en verra la fin, et ça paraît aux éditions du Seuil. Est-ce qu'une Maria Bethania, pour refermer cet En sol majeur et pour endormir peut-être votre petite fille, est-ce que ça vous conviendrait ? Parce que j'avais une dernière question, Jean Ziegler, avant de vous relâcher vers votre avenir d'aventurier et de révolutionnaire, donc. Vous qui dansez comme un bûcheron de l'Alaska, je vous cite,
oui.
Est-ce qu'il vous est arrivé de danser au Brésil ?
Ah oui, et Maria Bethania chante la musique de la diaspora africaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tiers des Africains sur cette planète vivent dans la diaspora, dans des communautés outre-mer qui proviennent de l'esclavage, de la déportation forcée. Et on nourrit des cultures au Brésil, à Cuba, les Lukumi, en Haïti, etc., des cultures magnifiques. La diaspora a créé des mondes, et Maria Bethania, la musique, la poésie formidable, qui est la voix de l'Afrique, la richesse des cultures brésiliennes, cubaines, vénézuéliennes, etc., proviennent largement de l'Afrique. Et cette Afrique de la diaspora, qui est ignorée en tout cas par les Européens, est d'une richesse, d'une créativité, d'une vitalité tout à fait extraordinaire.
Je me demande, puisque vous avez eu une vie comme ça jetée dans le monde, et notamment dans les bras de cette Afrique et de ce Brésil, oui. Deux continents qui vous ont véritablement forgé, Jean Ziegler, si vous vous sentez toujours suisse aujourd'hui et toujours blanc.
Vous savez que les Blancs n'ont jamais été plus que 13% de la population du monde. Et depuis 500 ans, quand la Terre est devenue ronde, comme on dit, ces Blancs, cette minorité féroce, cynique, mensongère, domine la planète avec des systèmes d'oppression.
Ça, on a compris.
L'esclavage, le colonialisme, l'impérialisme, aujourd'hui la dictature.
C'est pas ma question.
Du capital financier.
Est-ce que vous ne regrettez pas de pas être noir ?
C'est le hasard de la naissance, mais je crois que l'essentiel de ma structure psychologique est africaine, parce que la solidarité, cette vitalité incroyable, cette maîtrise de la mort, finalement. Hein. Le dialogue avec l'au-delà que les grandes cultures africaines ont mis au monde, tout ça m'a pas seulement influencé, mais me constitue maintenant. Je dois à l'Afrique, l'essentiel de mes convictions.
Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou. Tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto. Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou. Tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo o que ainda existe. Pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Quantas vezes você disse.
Du Maria Bethania en sol majeur, émission à retrouver en podcast, vous le savez, sur votre application Pure Radio, sur nos réseaux sociaux ou bien dans votre salle de bain, c'est-à-dire derrière votre poste, chaque samedi et chaque dimanche. C'est à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Boris Vichit, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Evans Mbuga. À demain.